lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Lorsque j'étais jeune, la ville que j'avais retenue pour faire usage de LSD ne pouvait être que Berlin. Malgré la disparition du mur, Berlin conserva pendant plusieurs années son caractère de péninsule, de lieu isolé, comme un espace protégé par les ruines des bombardements qui, encore à l'époque, étaient visibles et qui devinrent pour certains habitants une sorte de symbole. Une ville où des gens s'habillaient volontairement de frusque et où les murs lézardés de certains bars étaient discrètement éclairés par des rayons laser. Protégé par le mur, Berlin se donnait des airs d'exception, de cité régie par un régime spécial. La première fois que je goûtais au LSD, je crus qu'on m'avait pigeonné. Je sortis presque immédiatement de chez l'individu qui m'avait fait tirer la langue pour y déposer un petit morceau de papier. Je déambulais dans les rues, un peu contrarié. Il me semblait que ce monsieur avait été incapable de comprendre ce que signifiait pour moi une pareille aventure. Mon indignation atteignit son paroxysme lorsque j'arrivais sur l'Alexanderplatz. Des gens se mirent soudainement à m'appeler par mon nom. C'est pas le fait que tant de Berlinois sachent qui je suis qui m'étonna, mais le fait qu'ils soient incapables de respecter une situation aussi importante le jour où je fus joué par un faux acide. À un moment donné, le teckel qu'une dame tenait dans ses bras ouvrit exagérément la mâchoire. Je sentis qu'elle devenait plus grosse que ma tête. C'est seulement à ce moment-là que je remarquai que quelque chose d'anormal se passait. Je m'assis sur un banc, à l'endroit précis où l'ombre produite par la tour de la télévision fait une ligne verticale. Je me remémorais différentes choses, certaines avaient trait à l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal, qui s'était suicidé il y a longtemps. Il semble qu'il n'ait pu supporter la trop bruyante solitude, titre de l'un de ses livres les plus connus, dans laquelle il dut passer le restant de ses jours. Il escalada donc le rebord d'une des fenêtres de l'étage, à l'asile où il se trouvait interné, et sauta dans le vide. Je supposais alors que durant les dernières années de sa vie, Bohumil Hrabal avait été obsédé par le va-et-vient des pigeons qu'il apercevait depuis le pavillon où se trouvait son lit. Peut-être voulut-il se transformer en un volatile de plus ? Peut-être est-ce pour ça qu'il s'aventura à voler comme un oiseau ? D'ordinaire, c'est avec ma psychanalyste que j'évoquais la mort de Bohumil Hrabal, une praticienne auprès de laquelle j'effectuais une infinité de séances durant quelques années. Je me rappelle que je ne payais pas ma thérapie avec de l'argent, mais avec des textes. La rétribution consistait en un récit que je divisais en fragments afin que le traitement dure le plus longtemps possible. Ce qui m'amena au cabinet de cette thérapeute était mon manque patent d'argent. J'étais à cette époque incapable de me payer le moindre bien ou service. La première chose que je demandais quand on me proposait du travail était si j'allais percevoir quelque chose en échange. Je n'acceptais un poste que s'il n'était pas rémunéré. L'analyste m'expliqua que l'écrivain Bohumil Hrabal, tout petit déjà, souffrait d'un syndrome analogue, l'aversion pour l'argent, une chose qui l'accompagna jusqu'à l'âge adulte, époque où il se fit soigner un moment pour cela. Ce moment de guérison supposé dura jusqu'à la vieillesse, où il fit une rechute et refusa, entre autres choses, toutes sortes de primes pour son travail. Il fit don de ses écrits à des maisons d'édition et à divers médias. C'est pourquoi il termina sa vie reclus dans une institution d'État. Ma thérapeute, qui en outre était curieusement titulaire d'un diplôme de spécialiste de littérature des oiseaux romantiques, affirmait qu'il existait une étroite relation entre l'aversion pour l'argent et le type d'oiseau que chacun de nous, les êtres humains, représentons. D'après le paradigme en vigueur dans ses études, aussi bien Bohumil Rabal que moi-même étions une sorte de chouette mouchetée. Une autre catégorie taxinomique utilisée par les spécialistes en littérature des oiseaux romantiques consistait, d'après ma thérapeute, à répartir les oiseaux, et par conséquent les individus, entre les espèces carnivores et les espèces non carnivores. Quelque chose du genre victime et bourreau, maître et esclave. Le plus étrange et terrible, d'après les propres mots de la praticienne, se produisait lorsqu'une même personne présentait les deux caractéristiques à la fois, c'est-à-dire quand ses rôles devenaient réversibles de manière constante. Je repensais, assis là sur l'Alexanderplatz, aux pigeons qui avaient l'habitude de se poser sur les rebords des fenêtres de l'asile. N'aurait-il pas plutôt fatigué Bohumil Rabal au point de le mener au suicide ? Le roucoulement constant, le gloussement qu'ils produisent d'ordinaire ne serait-il pas venu railler à ses yeux les termes « trop bruyante solitude » présents dans un de ses livres majeurs ? Je vis ensuite, tandis que j'étais assis sur le banc, mes chiens Manga et Isaï tuer un pigeon lors d'une de nos promenades habituelles. C'était la fois où les pluies de la nuit précédente avaient formé une flaque dans le parc situé à 2 rues de chez moi à Mexico. Quelques personnes étaient rassemblées au bord de l'eau stagnante. Elles étaient debout, face à une femme qui propose souvent des petits déjeuners à emporter, aux premières heures de la matinée. Les pigeons picoraient les miettes qu'on leur jetait, je venais juste de sortir avec mes chiens. En arrivant à cet endroit, Isaï et Manga attrapèrent l'un des pigeons et le blessèrent mortellement. Les gens protestèrent, je pris la fuite. Les chiens me suivirent. Tout en marchant, nous nous retournions de temps à autre vers la proie abandonnée. Les chiens voulaient sans doute continuer de la mastiquer, ou alors retourner à l'endroit où elle gisait, probablement morte à ce stade, pour la ramasser et me la porter en guise de trophée. J'entendis quelqu'un, exactement comme sur l'Alexanderplatz, crier mon nom dans mon dos. On m'intimait l'ordre de recueillir le corps inerte et de le poser sur la branche d'un arbre. J'eus beau l'entendre de loin, ça me sembla une requête absurde. Peut-être que cet individu estimait qu'il était plus digne pour un pigeon de mourir sur une branche que dans une flaque formée par la pluie de la veille. Je me mis alors à réfléchir sur la relation de plus en plus compliquée qu'entretiennent les hommes et les animaux. Sur les prémices actuelles, sur les devoirs qui nous incombent à notre époque, sur des préceptes qui, quelques années auparavant, nous auraient semblé inimaginables. Par exemple, sur le fait d'adopter des animaux et non pas de les acheter, comme il était d'usage. Sur le fait de stériliser les femelles aussi bien que les mâles, de cesser tout à fait de les mutiler inutilement, les oreilles, la queue, ou de leur administrer un toilettage en fonction de canons de beauté spécifiques. Je pensais en outre, peut-être à cause des moustiques qui survolaient la flaque, aux insectes qui nous entourent, à leur caractère nuisible, hormis ceux qui nous servent à nous alimenter. Je réfléchis aussi aux rats que j'entends parfois sous le plancher de mon bureau et à l'appel que je reçus ce matin-là, peu avant la promenade lors de laquelle mes canidés attrapèrent le pigeon. On m'annonça à l'autre bout du fil que le chien que j'avais donné il y a plus de 8 ans à mon éditrice venait de mourir empoisonné après avoir mordu un crapaud. L'éditrice était navrée. Elle avait emmené le chien dans sa maison de campagne et c'est là qu'avait eu lieu l'accident. Il s'agissait d'un poison pour lequel il n'existait pas d'antidote. Mon éditrice m'appelait depuis la salle d'attente d'un four crématoire pour animaux domestiques. Quand j'entendis sa voix, je n'étais pas encore sorti promener mes chiens. Je sortis sur le champ et juste après, l'incident survenu avec le pigeon dans la flaque, je retournais chez moi. Les animaux rentrèrent de la promenade tout excités. Je ne sus si c'était à cause de l'oiseau mort ou bien parce que j'avais écourté la promenade. Ils n'arrêtaient pas de tourner autour de moi. Sans trop leur prêter d'attention, je m'assis à mon bureau et je cherchais sur l'ordinateur des informations sur les pigeons en général. Je souhaitais connaître l'espèce à laquelle pouvait appartenir la dépouille abandonnée près de ce groupe de gens. Oh, je me sentis mal. Peut-être parce que je me trouvais en réalité assis sur l'Alexanderplatz et que j'entendais des passants m'appeler par mon prénom. Je crois que ce genre de configuration, être dans mon studio à faire des recherches sur l'ordinateur et en même temps être assis sur l'une des places les plus mythiques de Berlin, me fait parfois comprendre plus que jamais l'acte de Bohumil Hrabal grimpant sur le rebord de l'asile dans l'intention d'effrayer les pigeons. On raconte que la chute de Bohumil Hrabal fut assourdissante. Qu'il n'est pas mort sur le champ, mais qu'il lui fallut plusieurs minutes avant de cesser de respirer. Qu'il souffrit d'une façon semblable au chien de mon éditrice après avoir été attaqué par le crapaud venimeux. L'éditrice me confia que le venin mit près d'une heure à faire effet. Certains témoins affirment que Bohumil Hrabal ne manifesta pas le moins du monde l'élégance avec laquelle tout oiseau effectue son vol final. Cette façon qu'ont certains de planer comme s'il disait adieu au monde. Pourtant, je constatais à plusieurs reprises qu'en réalité, les oiseaux ont l'habitude de mourir recroquevillés sur eux-mêmes dans quelques coins de nature. Je me souviens avoir vu plusieurs oiseaux moribonds au cours de ma vie. Surtout sur les plages de Montauk. Quand j'étais enfant, j'en suis venu à penser plus d'une fois que les mouettes qui ne pouvaient plus voler demeuraient coates parce qu'elles avaient tout à coup décidé de se faire apprivoiser par les hommes. À peine les avais-je aperçues sur un coin de la plage que j'affectionnais de me rapprocher d'elles comme pour leur signifier mes bonnes intentions. Presque toujours, je tâchais de leur donner quelque chose à manger. Je me rendais pas compte que nombre d'entre elles boitaient ou demeuraient saisies d'effroi tandis que ma main les caressait. Après quelques heures, il arrivait que je les retrouve mortes. Le plus souvent, sous un nuage de mouches, de grandes mouches de couleur verdâtre, celles qui préfèrent se nourrir de chair inerte et qu'on trouve presque toujours sur les plages. Des insectes de ce type devaient voleter en cet instant autour du pigeon mort qui, je l'appris par la suite, c'est la dame qui recevait ses clients le matin, elle-même qui me le raconta, fut déposée par ces gens sur une des branches de l'arbre, laquelle, indiquèrent-ils, était le lieu approprié pour abandonner un pigeon mort à cause d'un chien. Une mouche des plages, verte, aux caractéristiques semblables à celles des mouches qui me terrifièrent en se posant, deux presque en même temps, sur ma main alors que je venais de m'asseoir sur un banc de l'Alexanderplatz. Une mouche qui avait l'air plus grande encore que la mâchoire du teckel que cette dame portait dans ses bras en traversant la place. À ce moment-là, je remarquai que le temps écoulé pendant la plupart des événements que je viens d'évoquer, les gens sous l'arbre et mes chiens s'attaquant à un pigeon, mes digressions sur Bohumil Hrabal et sa chute depuis le rebord de l'asile, mes préoccupations sur les nouvelles directives qu'il convient d'observer dans notre relation avec les animaux, la mort du chien de mon éditrice, tout ça n'avait duré que quelques secondes, que le teckel mit à ouvrir la gueule. Je compris alors que l'homme qui m'avait mis son bout de papier sur la langue ne m'avait pas trompé. Je réaffirmais que Berlin est le meilleur endroit pour vivre ce genre d'expérience, celle du LSD, et que les mouches vertes ne se trouvent pas que sur les plages. Je m'aperçus qu'il y en avait une qui s'était posée sur ma main et une autre près de mes lèvres. D'après le témoignage de ses proches, Bohumil Hrabal était encore, la veille du jour de sa chute, en train de corriger un texte qu'il avait intitulé « Poule en bois ». Il possédait quelques cahiers et un stylo plume des années 50. C'étaient là les seuls objets de valeur aux yeux de l'auteur. Dans son placard exigu, il possédait une série de flacons d'encre bleue. Les personnages principaux de « Poule en bois », c'est Bohumil Hrabal lui-même qui le dit, étaient des oiseaux de proie qui affectionnaient de voler sans but précis. Nous autres, oiseaux de proie, qui oublions régulièrement où se trouvent nos nids, nous venons de décider de vivre un peu l'aventure, écrivit Bohumil Hrabal à la première ligne de Poule en bois. Pourquoi des oiseaux de proie ? Me demandai-je assis sur le banc et parcouru de mouches vertes. En définitive, comme je l'ai affirmé, il n'y en avait pas tant que ça. Elles arboraient bien cette nuance de vert intense, mais n'étaient guère plus que deux ou trois. L'enfermement de Bohumil Rabal dans cet asile lui aura fait perdre la raison, pensais-je. Après tous les livres qu'il avait écrits pendant plus de 50 ans, il n'était pas envisageable qu'il lègue un texte où, entre autres choses, une série d'oiseaux de proie faisait office de personnage. Ses idées au sujet de Bohumil Rabal auraient-elles quelque chose à voir avec le fait de me remémorer ce matin pluvieux où mes chiens attaquèrent un pigeon ? Dans le texte de Bohumil Rabal, un groupe d'oiseaux de proie débat non seulement de l'opportunité de courir l'aventure, mais aussi de l'horreur que représente la rébellion d'un esclave. Appréhender une telle discussion fut pour moi bien plus important que la scène du teckel qui, il y a quelques secondes encore, ouvrait la gueule de façon démesurée. Assis sur le banc et potentiellement stimulé par la substance que je venais d'ingérer, je commençais à entendre les arguments des oiseaux de proie extraits des pages inachevées de Bohumil Rabal. J'imaginais alors que ce type d'oiseau devait être plus intelligent qu'un pigeon, entre autres volatile. Peut-être le fait qu'il soit rapace nourrissait-il un tel jugement, mais immédiatement me vinrent à l'esprit les nouvelles modalités que nous autres, humains, devions adopter dans notre relation avec les animaux. En vertu de ces codes-là, penser qu'un volatile est plus méritant sous prétexte qu'il se nourrit de viande pouvait passer pour une énormité. Néanmoins, je venais d'être témoin de la façon dont mes chiens avaient attaqué le pigeon qui tentait d'obtenir quelques miettes auprès des gens qui petit-déjeunaient sous un arbre. J'avais vu de mes propres yeux deux animaux carnivores se ruer sur un oiseau qui s'alimente surtout de miettes de pain. Et cette rencontre n'avait pas même débouché sur une lutte. Les chiens n'avaient eu à faire usage d'aucune habileté particulière pour charger le pigeon. Aucun doute n'était possible sur l'intelligence des assaillants, ni sur l'abandon, pas uniquement physique, de la victime. Je décidai tout d'un coup d'oublier presque tout ce qui m'entourait. L'esplanade de ciment où je me trouvais assis, le teckel à la démarche contrariée par sa maîtresse, n'étant pas même en condition d'aller par ses propres moyens, puisqu'on le portait. Je voulus m'abstraire pour entendre avec un semblant de clarté le monologue de ces mystérieux oiseaux de proie. Quoique cela semble invraisemblable, ces oiseaux commencèrent à entrer en communication avec moi. Je me trouvais là, à les écouter, immobile, assis sur un banc de l'Alexanderplatz, avec sur moi deux ou trois mouches vertes. Quel est le point où siège notre douleur face à la révolte d'un esclave ? Parvins-je à entendre. C'était vrai, l'esclave avait fui. Il semblait qu'il ait profité du fait que les oiseaux de proie se trouvaient éloignés, en voyage, en d'autres contrées, avec un océan au milieu. Peut-être ces derniers temps n'avaient-ils été suffisamment fermes dans la relation qu'ils avaient avec l'esclave. Peut-être avaient-ils flanché sur quelques points. Ils se rappelèrent lui avoir offert, au retour d'un précédent voyage, un morceau de viande de crocodile sélectionné avec choix. Quelqu'un de très proche, un congénère d'une espèce voisine, de proie elle aussi, le leur avait fait remarquer. « On ne fait pas de cadeau à un esclave », leur avait-il déclaré, d'aucune sorte. Un tel présent pouvait signifier un pas en arrière dans la relation qu'ils étaient supposés avoir construite avec cet être. Ce morceau de viande, déniché dans un marais, pouvait être source de confusion quant à la nature du lien qui unissait l'esclave aux oiseaux de proie. Serait-ce alors eux qui, par ce geste maladroit, auraient favorisé cet actuel état de fait ? L'esclave s'était conduit de façon exemplaire plusieurs années durant. Certes, le système qu'avaient commencé à établir les oiseaux de proie avec lui, au début de leur relation, connut des étapes successives. La première fut de faire accepter à l'esclave leur penchant démesuré et assez inexplicable, y compris pour eux-mêmes, pour les chiens, dont ils aimaient être entourés en nombre. Une telle assertion peut sembler curieuse, mais les oiseaux de proie décrits par Bohumil Rabal étaient d'une espèce qui devait toujours avoir des chiens auprès d'elle, toujours. Peut-être le faisait-il parce qu'il souhaitait se sentir en sécurité pendant la nuit, ou peut-être simplement par quelques caprices d'oiseaux de proie. À peine était-il éveillé, les oiseaux de proie voyaient depuis leur nid, ou plutôt, ils entendaient comme une vague rumeur tant, à la différence d'autres oiseaux, ils avaient coutume de dormir plus que de raison, l'esclave sortir promener les 6 chiens dont ils avaient la garde. La nuit d'avant, il avait attaché les chiens autour des arbustes sur les branches desquelles dormaient les oiseaux de proie. L'action consistant à les détacher pour les promener était effectuée par l'esclave généralement plusieurs fois par jour. La plupart du temps, ils allaient courir dans un parc à proximité. Il s'occupait également des dates des vaccins, du bain et du brossage dont les animaux avaient besoin. De l'achat, presque toujours en gros et chez des fournisseurs spécifiques, d'aliments déshydratés et d'antiparasites qu'on devait leur administrer au moins tous les 3 mois. En sus de prendre soin d'eux, l'esclave devait aimer profondément chacun des chiens dont il s'occupait. Les oiseaux de proie observaient comment il se prenait peu à peu d'affection pour les chiens. Comme il est naturel, bien souvent cet amour était réciproque. Ni l'un ni les autres de l'esclave et des chiens ne pouvaient être unis par un lien plus fort que l'amour qu'ils étaient dans l'obligation de professer, aussi bien l'esclave que les chiens, pour les oiseaux de proie. Le mécanisme utilisé par l'esclave pour maintenir la relation à l'intérieur du cadre établi était intéressant. Il semble qu'on avait là un esclave d'expérience, de naissance si l'on peut dire. Mais ce qui passait par l'esprit des chiens était un véritable mystère. Personne ne savait comment, malgré les marques d'affection que pouvait leur témoigner l'esclave, ils reconnaissaient sans hésiter leur véritable maître. D'après Bohumil Rabal, faire en sorte que l'esclave s'occupe et se prenne d'affection pour les chiens, qu'il les aime profondément, était pour les oiseaux de proie une étape des plus faciles à franchir. Le plus impressionnant était le stoïcisme de l'esclave lorsqu'arrivait le moment pour les oiseaux de proie de se défaire des chiens. Ils se mettaient d'accord et se jetaient sur les animaux à coups de bec. Ils les attaquaient avec une extrême férocité. Les chiens étaient presque toujours pris par surprise, incapables de comprendre ce qu'il se passait tout à coup chez ces oiseaux débridés. Cette situation faisait des victimes une proie facile. Certains visaient directement les yeux. Ils essayaient de les transpercer de leur bec effilé. La plupart du temps, ils parvenaient à leur fin. Les chiens gémissaient, pleuraient, poussaient des hurlements de douleur. Beaucoup ne savaient quoi faire, fuir les assaillants ou bien demeurer immobiles et recevoir l'inhabituel châtiment. Au bout du compte, ils finissaient par fuir même les plus fidèles d'entre eux. Devant ces faits, l'esclave ne prononça jamais aucune parole, ni d'assentiment, ni de refus. Assis là, sur un banc de l'Alexanderplatz, ou fuyant le pigeon mort près des gens qui petit-déjeunaient sous un arbre, il me semble important de signaler la façon dont les oiseaux de proie parvinrent à trouver pareil esclave. C'est arrivé de façon quelque peu triviale. Un jour, l'esclave s'est mis à leur renvoyer des photos de lui. « Je sais qu'il est difficile de croire, » écrivait Bohumil Rabal sur la deuxième page du manuscrit, « qu'un esclave ait pu adresser des photos à des oiseaux de proie. » Bon. Les premières images que l'esclave avait envoyées aux oiseaux étaient d'anciennes photos. D'une époque où il avait les cheveux longs, portés de telle façon qu'il pouvait avoir quelques ressemblances avec une version précolombienne d'un autoportrait de Dürer. Il semble que Bohumil Rabal, j'en parlais aussi avec la thérapeute, est envoyé, afin qu'on publie ses livres, des photos à certains éditeurs quand il était jeune. Bon. De fausses images. Il a envoyé des portraits de parents âgés dans l'intention de laisser croire aux éditeurs qu'il s'agissait de quelqu'un de sérieux et non pas d'un jeune homme en proie aux atermoiements et à la seule passion de l'écriture. Aux infirmières du sanatorium qu'il apercevait avec son cahier et sa plume, assis sur le bord du lit, il répondait, lorsqu'on le lui demandait, « Ce n'est pas moi qui écris. » « Je suis un autre lorsque je relate, et non le vieil homme que vous dévisagez en ce moment. » Par exemple, je peux raconter la façon dont je viens d'être trompé par un homme qui a mis un bout de papier sur ma langue, ou bien décrire mes chiens attaquant un oiseau près de gens qui petit-déjeunent dans la rue. Je ne suis pas, moi, quand je cherche à réfléchir au sujet de l'écrivain tchèque reclus dans une institution publique ou au sujet de sa curieuse relation avec les pigeons qui encombraient les fenêtres de l'étage où on l'avait interné. C'est pour ça que je peux entendre des oiseaux de proie discuter du jour où se rebella un esclave qui, au début, au vu des photos qu'il en renvoyait, leur fit penser qu'il s'agissait d'une version d'un tableau de Dürer. d'un esclave qu'ils employèrent à surveiller leurs chiens. Ces chiens qu'ils assuraient adorer, quoique de façon provisoire. Il y avait là la plume, les flacons d'encre bleue et les cahiers sur lesquels il coucha poule en bois. Bohumil Rabal était convaincu qu'une de ses plus grandes réussites était d'avoir pu exister seulement au travers de ce qu'il écrivait. Des journées, des mois entiers où il n'avait pas à recourir au réel pour poursuivre son existence. Bohumil Rabal vécut longtemps avec l'idée de ne pas reconnaître comme sienne sa propre écriture. Avant qu'on ne l'interne à l'asile, Bohumil Rabal conservait un ou deux oiseaux en carton qu'il gardait dans une cage qu'il avait coutume de placer près de son lit. Il le racontait à qui voulait l'entendre. Bohumil Rabal affirmait que sa grande préoccupation à ce moment-là de sa vie étaient ces deux oiseaux dont la cage devait toujours être près de son lit. Il affirmait qu'il aurait voulu leur consacrer toute son attention, mais qu'il y avait toujours quelque chose pour le détourner d'eux. Les nouvelles à la radio, l'acte machinal de se lever le matin et de pénétrer dans le froid du couloir de la chambre qu'il louait pour se rendre aux toilettes communes. À une époque, Bohumil Rabal alla jusqu'à dire qu'écrire le détournait du fait d'écrire. Bohumil Rabal avait quelques connaissances en matière d'oiseaux. Il avait toujours vécu près d'un oiseau. Depuis tout petit, lorsque sa mère le berçait en pleine capitale avec la chanson populaire « Poule en bois, œuf de verre » avec laquelle on faisait dormir presque tous les enfants de sa génération. Personne ne savait exactement pourquoi, après les bombardements que subirent les populations limitrophes, pourquoi on cessa de chanter cette berceuse pour endormir les bébés. Le jour où il tomba de la corniche, Bohumil Rabal s'était juché précautionneusement, avec dans ses mains le pain récupéré le jour d'avant. Lors de la dernière visite du médecin qu'on avait assigné à l'examen des patients internés, Bohumil Rabal, après avoir fait les 100 pas dans le pavillon, s'assit dans un coin et se prit la tête dans les mains. Là, les jambes légèrement écartées, il commença à relater le terrible spectacle que donnaient à voir les oiseaux de proie lorsqu'ils avaient décidé de se défaire soudain de la meute de chiens qu'ils avaient à leur charge. « C'était terrible, répéta-t-il, d'être témoin, en qualité d'esclave, en outre, de la façon dont les oiseaux de proie semblaient, d'un coup, devenir fous et attaquaient sans pitié de leurs becs effilés les chiens que Bohumil Rabal lui-même s'était vu dans l'obligation d'attacher un instant plus tôt. Les chiens hurlaient de douleur, les oiseaux s'acharnaient sur les yeux de leurs victimes. J'entendis, assis sur l'Alexanderplatz, le chant de quelques oiseaux. Surtout celui des oiseaux qui vont mourir sur les plages, qui ne chantent pas vraiment mais qui émettent certains sons qui ne sont pas perceptibles par tout le monde. Ces bruits étaient ceux que j'entendis vraiment à ce moment. Les hurlements des chiens également, lorsqu'ils se faisaient attaquer de manière furibonde par les oiseaux de proie. J'observais que les mouches marchaient maintenant sur mon corps sans mes directives. Elles avançaient selon leur bon arbitre, leur libre arbitre. Je ne leur donnais plus aucune marche à suivre. À quel moment fus-je distrait ? Fus-je réellement si affecté par le spectacle de Bohumil Rabal faisant les 100 pas dans le pavillon, en attendant la venue du médecin une semaine avant sa mort ? Bohumil Rabal était tombé en essayant, non de tuer, mais de nourrir ses proies éventuelles, m'avait répété plus d'une fois l'analyste avec laquelle j'évoquais l'écrivain. Nombreuses furent les séances au cours desquelles Bohumil Rabal fut le centre de notre attention. Peut-être trop. Et c'est ensuite, de façon presque naturelle, que nous commençâmes à aborder le sujet de la relation entre le maître et l'esclave.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Waouh, que de digressions. C'est assez, assez dingue. Bon, c'est pas étonnant qu'il commence par dire qu'il prend du LSD.
En tout cas, donc, c'était Mario Bellatin, devrais-je dire, puisque c'est un auteur mexicain. Il est né au début des années 60, il a écrit une dizaine d'œuvres. C'est sur les plages de Montauk, les mouches pullulent. Sur les plages de Montauk, les mouches pullulent. Et donc, ça a été traduit par Alexis De Dieu, donc traduit de l'espagnol, puisque je rappelle, l'auteur est mexicain. L'auteur s'appelle Mario Bellatin. Et d'ailleurs, pour un petit peu en parler, il parle d'un auteur tchèque, Bohumil Hrabal, qui est né au début du XXe siècle et qui est mort à la fin de ce même siècle. Un auteur tchèque qui a écrit notamment Une trop bruyante solitude en 1976, qui avait été remarquée. Et un auteur qui publiait souvent en auto-édition, puisqu'il a été interdit plusieurs années de publication. Voilà, c'était dans les années 60 et 70 en République tchèque, donc du coup ex-URSS. Bref. C'était paru, donc le bouquin que je vous ai lu, donc Sur les plages de Montauk, les mouches pullulent, est paru aux éditions Atelier du Tilde, en 2014 en ce qui concerne la traduction française. Lu et approuvé, ça se termine pour ce soir, donc 23h30 et minuit jusqu'à minuit et des brouettes chaque mercredi sur Canal Sud 92.2. Vous pouvez retrouver réécouter cette émission et toutes les autres, les anciennes émissions, sur notre site internet. Donc on a un blog, luiapprouvé.noblogs.org, ou sinon bien sur le site internet de Canal Sud, www.canalsud.net. Vous retrouverez tous les podcasts depuis le tout début, il y a maintenant un an et demi. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire pour nous proposer des lectures, par exemple, ou bien alors venir lire à la radio ou nous envoyer vos enregistrements de lecture, c'est toujours possible. Ça a déjà été fait et ça sera de nouveau, ce sera fait dans le futur très certainement. Mais n'hésitez pas à nous contacter donc, luetapprouvé@guyade.org, luetapprouvé tout attaché sans accent, @guyade.org. Sinon, vous pouvez nous envoyer des courriers également. Émission Lue et Approuvée, Radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse. Voilà, j'étais un petit peu bavard dans cette fin d'émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Lue et Approuvée. Salut, bonsoir.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.